Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Des fois, cette émission me touche. J'aime bien le vivre à côté de toi, Mimi.
Et c'est sur l'autre radio ?
On dit souvent que le théâtre est un miroir, mais qu'est-ce qu'on fait quand ce qu'il nous renvoie est trop brut, trop inconfortable ? Est-ce qu'on détourne les yeux ? Est-ce qu'on hausse les épaules en se disant que tout ça c'est du passé, c'est de la fiction ? Aujourd'hui, dans un jardin d'Espagne, deux femmes prennent la parole. Pas pour se faire entendre, mais pour faire entendre une histoire qui, sous ses airs de fiction, dit une réalité bien trop familière. Nuit dans les jardins d'Espagne, c'est un texte d'Alan Bennett, un récit qui s'immisce là où on n'aime pas trop regarder, derrière les façades des maisons tranquilles, dans ces silences pesants qu'on laisse s'installer, dans ces vies où l'on s'efface doucement. Pourquoi certaines voix peinent-elles tant à exister ? Pourquoi faut-il encore jouer, encore raconter pour que l'évidence devienne audible ? Peut-être parce que la société a cette étrange capacité à banaliser l'inacceptable, à habiller les violences d'un voile d'indifférence. Alors aujourd'hui, ici, vous et moi, on écoute. On écoute Virginie Fouchaud et Sandrine Ouest de la compagnie du Théâtre d'Air à Laval qui portent ce texte avec conviction. Qu'est-ce que ça change de monter sur scène pour raconter ses vies ? Qu'est-ce que ça fait de se glisser dans la peau d'une femme qui pourrait être notre voisine, notre amie, notre sœur ? Bonjour à vous, amis auditeurs, c'est bien votre émission quotidienne qui commence. Vous êtes les bienvenus à nos côtés. Et je dis nos côtés puisque chaque jour, je partage cette émission avec toi, Maxime. Comment tu vas, Maxime ?
Bonjour à tous, ça va super. Et toi, Margot ?
Ça va très très bien. C'est une émission un peu spéciale qui, en tout cas, nous amène vraiment au cœur du Théâtre des Trois Chênes à Loiron et qui nous plonge au cœur de la programmation du temps fort autour de la Journée internationale du droit des femmes et de tout ce que nous propose Mélanie Planchenot, directrice et programmatrice du théâtre pour cette occasion, puisque c'est elle que l'on écoutera en seconde partie d'émission. On commence l'émission avec une histoire, on la termine avec une autre et pas n'importe laquelle, puisque c'est celle de notre chroniqueur Donatien. Vous connaissez le programme du jour, vous me connaissez, je suis Margot. Maintenant que tout est dit, on tire le rideau et on monte sur scène. L'agité du local sur l'autre radio. Je le disais à mon micro aujourd'hui, Virginie Fouchaud, metteur en scène et directrice artistique de la compagnie du Théâtre d'Air à Laval, et Sandrine Ouest, comédienne au sein de la pièce Nuit dans les jardins d'Espagne, que vous êtes actuellement en train de travailler ensemble. C'est un texte d'Alan Bennett. Alors j'ai envie de commencer en vous demandant de nous raconter un peu l'histoire qui nous est racontée dans cette pièce.
Donc c'est une histoire qui se passe dans un quartier résidentiel en Angleterre. Et Jeanne vient rendre visite à sa voisine, Rosemary, pour lui dire que son mari a un problème. On comprend au fur et à mesure dans le récit mené qui nous est... la parole est confiée, nous est confiée par Rosemary, que ce mari est mort, qu'il est mort parce qu'il a été tué. Il a été tué par Jeanne, la voisine, et parce qu'il lui a fait subir des choses horribles pendant des années. Du coup, se lie une amitié très forte entre les deux femmes qui ont une passion commune qui est le jardin. Et elle accompagne Jeanne dans toutes ses démarches face à la justice. Elle va la voir en prison. Et des confidences, c'est une histoire de confidences, d'amitié, de complicité. Et on a l'impression que l'une et l'autre ont, pour la première fois de leur vie, une relation forte. Elles ont jusque-là subi soit la solitude, soit des relations un peu imposées par les hommes qui les accompagnent.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte que vous avez découvert il y a une vingtaine d'années, mais à l'époque, vous n'aviez pas l'âge pour interpréter le personnage, Sandrine.
Oui, tout à fait. Donc là, maintenant, j'ai l'âge du personnage, c'est-à-dire une petite cinquantaine, un début de 50 ans. Et en fait, ces années-là ont été bénéfiques. En même temps, parce que quand on a 35 ans, c'est chouette. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu aussi des choses sur ces 20 années. Donc je suis très heureuse de pouvoir enfin, avec cette maturité-là, de pouvoir jouer ce personnage.
Et donc vous avez été à la rencontre de Virginie pour la mettre en scène. Vous vous connaissez depuis très longtemps. Comment est-ce que vous travaillez toutes les deux ensemble ?
Alors, on travaille vraiment théâtralement. Je veux dire par là qu'on ne travaille pas psychologiquement autour du personnage. C'est-à-dire les choses se racontent et se construisent sur le plateau en répétition. On travaille avec les corps, on travaille avec les espaces, on travaille avec la précision d'un geste, d'un regard, surtout sur un récit comme ça où ça demande et au public et à l'actrice une concentration, quelque chose de très d'assez ciselé, d'assez dessiné. Tout ce qui est superflu, ça devient anecdotique, c'est pas intéressant, mais c'est quand même du théâtre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans la sincérité de ce qui est raconté, de ce personnage. Et en même temps, le texte de Bennett amène quelque chose de très, presque musical. Il y a quelque chose de l'ordre du suspense. C'est vraiment un objet de fiction.
Le jardin, ici, c'est un espace de création et de liberté.
Oui, c'est-à-dire que cet amour des plantes et des jardins qu'elles ont, c'est vraiment leur endroit de refuge, de liberté et d'émancipation. En fait, c'est le seul endroit où on a le sentiment qu'elles sont intimement concernées par ce qui se passe. Parce qu'on comprend au fur et à mesure du récit que ces femmes sont guidées par des hommes, en fait. Et que ça fait partie de... Elles ne se révoltent pas, d'ailleurs, jusqu'au jour où elles tuent le mari, parce que ça devient insupportable. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est un fait de société qui dit que, en fait, une femme suit ce que l'homme a décidé et dans tous les domaines. Or là, cet endroit de complicité qu'elles ont, qui est le jardin, elles se rencontrent d'ailleurs au travers de leur jardin. La première fois, elle se parle de leur magnolia avant que Jeanne vienne la voir pour des histoires plus graves. Et du coup, c'est vraiment, oui, cet endroit-là de liberté totale.
Qu'est-ce qui vous touche personnellement, de ce que vous voulez bien nous en dire, dans ce que sont ces personnages de Rosemary ou de Jeanne? Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qu'elles viennent peut-être bousculer?
Alors, il y a des choses très... comme dit Rosemary, il y a des éléments qui émergent. Chez moi, c'est-à-dire vraiment cette complicité entre ces deux femmes, l'amour qu'elles ont l'une pour l'autre, parce que moi, ce que j'aime bien dans ce genre d'écriture, il y a plein de couches, en fait, des couches, infra-psychologiques. Moi, par exemple, en tant que personne et actrice, j'aime bien y mettre, et Virginie, c'est pareil, c'est pour ça qu'on travaille bien ensemble. C'est que on peut se dire, tiens, ça va aller jusqu'où, cette amitié amoureuse? Et moi, j'aime bien distiller un peu de suspense aussi, enfin en tout cas des accroches comme ça qui peuvent être ça ou autre chose. On connaît tous ça, nous les hommes et les femmes, c'est-à-dire des amitiés où tout à coup l'autre est indispensable. Et ça ne veut pas dire qu'on a super envie de coucher avec cette personne-là, mais il y a une évidence, voilà. C'est ça qui m'a plu, et ce qui m'a plu aussi, c'est de parler de la violence faite aux femmes, et puis c'est de parler aussi de ma condition de femme, et aussi de ma mère. Voilà, donc c'est une histoire que je trimballe. Alors c'est pas du tout, ma mère était pas malmenée, mais en tout cas ma mère, elle a 81 ans, donc c'était une femme au foyer. Donc, elle avait un jardin secret qui était la cigarette. Mais elles ont toutes, en tout cas, ces femmes de cette génération-là, et il y en a d'autres dans d'autres pays, malheureusement, qui n'ont pas 81 ans et qui subissent des choses comme ça. Donc voilà, c'était très...
Moi, je crois que j'ai vraiment un truc très fort avec la question de la liberté. C'est-à-dire comment, c'est partout dans tous mes spectacles, en fait, c'est un peu mon obsession et... En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont très vite donné la légitimité d'être qui j'étais. Et je trouve que c'est un tel luxe. Et je le réalise, je trouvais ça normal, moi, plus jeune, mais je réalise à quel point le monde va mal quand les gens ne sont pas à l'endroit où ils voudraient être. Et parfois, ils ne le sont pas, non pas parce que... ils ne se posent même pas la question de est-ce que j'ai envie d'être là. C'est-à-dire qu'ils sont là parce que à un moment donné, un diktat, une espèce d'injonction, sociétale ou familiale ou etc. leur dit que c'est là leur place. Et je pense que tout ce qui parle de ça, de comment intimement on arrive à être là où on souhaite être, moi ça me touche, ça me bouleverse.
Et on peut peut-être le dire, mais cette pièce fait écho à l'affaire Pellico dont tout le monde a pu entendre parler.
Ben oui, c'est-à-dire le mari qui est tué organise des viols collectifs, exactement ce qui se passe dans l'affaire Pellico. Et voilà, sauf qu'elle est, elle est consciente de ce qui se passe, elle est pas, c'est la seule différence. Voilà, et la force aussi de ce texte, et donc ça va jusque-là, hein, il s'agit bien de violence avec à certains moments d'ailleurs des détails, mais il y a toujours le théâtre qui reprend ses droits et qui rend les choses assez supportables, finalement, pour qu'on puisse les entendre, non pas pour les alléger et les banaliser, c'est pour que le théâtre permet de faire entendre des choses très difficiles. Et du coup, comme c'est fait avec une forme de légèreté, ça permet aussi de l'identification. Or, quand c'est trop violent, trop insupportable, on fait « Oh non, mais ça, c'est loin de moi ». Or là, tous ces personnages sont d'une banalité effarante, en fait.
Finalement, amener ces récits, ces thématiques sur scène, au théâtre, c'est permettre de les rendre entendables et de se questionner dessus, de réfléchir ensemble sur ce qui est en train de se jouer. C'est une fiction qui fait écho à une réalité.
Oui, puis en fait, j'allais dire, le texte, il a été écrit en 1999. Donc on est en 2025, si je ne m'abuse. Voilà, et l'affaire Pellico, elle a eu lieu l'année dernière. Enfin, voilà. Donc malheureusement, c'est toujours d'actualité. Et ce que je veux dire, c'est que là, on parle très sérieusement des choses. Mais comme le dit, rappelé Virginie, c'est que ça reste un texte, c'est une fiction. Et même si elle a écho dans notre vie, il y a beaucoup d'humour. Enfin, il y a un humour anglais. Alors, on se tape pas sur les cuisses, hein. On n'est pas là non plus pour faire du one-man show, quoi. Mais il y a une dimension poétique et la poésie de cette femme, de ce personnage, il emmène vers une espèce de naïveté. Et la naïveté, elle nous fait sourire, en fait. Parce qu'en fait, on en est toutes, plus ou moins, et tous emprunts. C'est-à-dire, ah non, l'intenable, c'est pas possible. Donc il y a, il y a en tout cas aussi une dimension poétique.
Ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est que finalement, il y a dans la relation entre ces femmes, ce sont des femmes qui se rencontrent vraiment, qui échangent vraiment et peut-être pour la première fois. Cette rencontre permet cet effet miroir, vous avez évoqué tout à l'heure. Et là aussi, ça raconte quelque chose de la société, des femmes à qui qu'on a presque empêché par un système de se rencontrer vraiment.
Oui. Absolument. Et c'est ça d'ailleurs les relations d'amitié ou d'amour. C'est que c'est des relations qui nous font soit grandir ou soit déjà nous apercevoir. C'est-à-dire que. Et la complicité, c'est ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose. Alors je ne connais pas la complicité entre deux hommes, je peux l'observer, mais je ne la connais pas intimement. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau et très riche dans les complicités féminines. Ça va très très loin, je trouve, oui, dans les confidences, même physiquement, il y a une tendresse plus facile entre deux femmes, j'ai l'impression, que deux hommes. Et du coup, il y a tout ça, on a l'impression qu'elles découvrent l'une et l'autre. La tendresse, l'amour, le respect, l'humour, pour la première fois. Ah, donc, je ne sais pas quel âge elles ont, elles doivent avoir une cinquantaine d'années.
L'effet miroir, il est aussi avec la complicité qu'on a avec Virginie. Donc, comme on se connaît depuis très très longtemps et qu'on a une pratique du travail théâtral ensemble, c'est aussi ça. La maturité aussi, le fait de grandir ensemble ou momentanément d'avoir été travailler moi ailleurs et de se retrouver, j'ai l'impression qu'on a de moins en moins besoin de mots pour se dire les choses sur le plateau. Enfin, en tout cas, quand elle me dirige, parce que c'est ça que j'aime bien chez Virginie, c'est que c'est une vraie directrice d'actrice, d'acteur. C'est parce qu'elle est aussi comédienne, donc voilà, c'est une économie de mots et c'est super, quoi. Enfin, ça va vite.
Et pour terminer, le spectateur, quand il va venir vous voir sur scène, il sera quoi ? Est-ce qu'il sera le confident de Rosemary ? Quelle place est-ce que vous voulez qu'il ait ?
Oui, c'est une bonne question. Oui, c'est ça, c'est-à-dire comme une première oreille, une écoute. Quelqu'un à qui il fait confiance, il raconte cette histoire. Et je voulais juste dire une petite chose sur... L'auteur, c'est un homme, et je trouve que c'est bien. Je redis ça parce que je trouve que ça ne doit pas être facile d'être un homme, là, à certains moments aussi, en ce moment, parce que quand on se retrouve... On peut se retrouver amalgamé à des choses, à des actes violents, terribles, etc. Et je trouve que la défense des femmes, elle doit passer par les hommes. Et je trouve que ça se passe de plus en plus. Je pense aux jeunes générations et c'est drôlement bien. Et Alan Bennett, c'est un extrait d'un recueil qui s'appelle... en français, Moulin à paroles, qui n'est pas très joli d'ailleurs en français, c'est Talking Heads, des gens qui parlent dans leur tête, donc justement, et des femmes, et ce ne sont que des portraits de femmes. Et c'est un homme qui connaît vraiment magnifiquement les femmes, et c'est ce que je trouve beau aussi. Voilà.
Et donc, Virginie et Sandrine, on vous retrouvera toutes les deux sur la scène du théâtre des Trois Chênes à Loiron. Sandrine, vous vouliez ajouter ?
On a besoin de se réunir en ce moment autour de la question du spectacle, des œuvres poétiques, du vivre ensemble. C'est très important là, en ce moment.
En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette pièce « Nuit dans les jardins d'Espagne », un texte d'Alan Bennett que vous jouerez donc sur la scène du Théâtre des Trois Chênes le 8 mars. Merci beaucoup. L'agité du local sur l'autre radio. Et alors on continue de se plonger dans la programmation qui nous est proposée par le Théâtre des Trois Chênes et sa programmatrice Mélanie Planchenot. Mais avant, on fait une pause. Maxime, qu'est-ce que l'on écoute ?
On va écouter le chant des cygnes du groupe Indochine.
Yeah.
Raconter des histoires, c'est déjà une façon d'agir. Faire entendre des voix, c'est déjà une manière de donner de la place à celles qu'on écoute trop peu. C'est tout le sens du 8 mars, ne pas laisser cette journée être une simple formalité, mais en faire un moment où les mots comptent, où les scènes deviennent des espaces de réflexion et d'émotion. Le 8 mars, ce n'est pas juste une date sur le calendrier, ce n'est pas juste une journée qu'on coche en se disant « Ah oui, c'est aujourd'hui ». C'est un rappel, un écho qui résonne chaque année pour dire que l'égalité, ça se construit, ça s'interroge, ça se célèbre aussi. Ici, en Mayenne, il y a des lieux où on prend ce temps, où on met les projecteurs sur les voix des femmes, sur leurs histoires, sur leurs luttes. Le Théâtre des Trois Chênes à Loire-en-Ruillet fait partie de ces endroits qui s'emparent du 8 mars pour en faire un temps fort. Mélanie Plancheneau, directrice et programmatrice du Théâtre des Trois Chênes, nous dévoile la programmation spéciale pour cette année 2025. Donc, le 7 et 8 mars, le Théâtre des Trois Chênes organise un temps fort autour de la Journée internationale des droits des femmes. Comment est-ce qu'il a été pensé ce temps-là ?
Eh bien, il a été pensé par l'entrée artistique, voilà, avec des spectacles que j'ai découverts, des compagnies dont je suivais le travail. Et puis, voilà, je, bien sûr, dans la programmation, chaque saison, je suis attentive dans la construction d'avoir une place voilà, parité de celle des hommes, place des femmes dans la programmation. Parfois, peut-être un peu plus, mais aussi, c'est, voilà, c'est ou pas. Enfin, voilà, tout dépend aussi des projets que je découvre. En tout cas, ça fait partie de mes paramètres, en fait, de choix. Et puis j'ai découvert voilà, des spectacles hein, comme tant d'autres et puis je me suis dit tiens ce serait super pour l'année, la saison 24-25 d'avoir un temps fort autour de la Journée internationale des droits des femmes en mettant voilà, des artistes femmes à l'honneur. Donc il y a deux spectacles qu'on accueille ces 7 et 8 mars. Le premier c'est Un beau jour de la Compagnie A, qui est une compagnie angevine qui travaille le médium de la marionnette, théâtre d'objets. Et là qui propose un spectacle autour, un très beau poème visuel et sonore autour de l'artiste Barbara. La Compagnie A qui est coportée voilà, par une femme et un homme, co-direction artistique. Et puis voilà, autour de cette femme que tout le monde connaît. Mais là, ce qui me semblait très intéressant, c'était de redécouvrir cette femme artiste à travers le regard de ces deux artistes aussi et par leur, voilà, leur sensibilité à l'image. Il y a de très beaux tableaux qui se déploient, 7 tableaux qui correspondent à 7 chansons de Barbara. Et en même temps, on découvre aussi, on entend des archives sonores de Barbara, donc on entend sa voix, au-delà de la voix chantée, mais de sa voix aussi qui a été prise pendant des interviews et qui parle aussi de sa trajectoire en tant que femme et artiste. Voilà, je me suis dit, mais c'est, voilà, ça a toute sa place pour un événement autour de la Journée internationale des droits des femmes. Et puis justement, en écho à ce spectacle, à 18h30, on propose avec le collectif Nous de Nantes, un collectif pour la, voilà, l'activation de l'égalité femmes-hommes, une conférence-échange autour des femmes artistes et la place des femmes dans la culture aujourd'hui, où en est-on de cette place. Donc ce sera à 18h30, donc pour un préambule au spectacle Un beau jour. On aura aussi une table ronde sur les droits des femmes avec le Centre d'information pour les droits des femmes et des familles. Un repas partagé le midi et puis aussi Paroles de femmes en musique avec Pluriel.
Justement, je me tourne vers Anne Ostergaard, professeure de chant et de chant choral au Conservatoire de Laval Aglo.
Alors l'idée, ça a été de faire chanter des chansons écrites ou chantées, interprétées par des femmes. Et initialement, je pensais du coup associer des élèves, des filles, des jeunes femmes dans le projet. Et finalement, j'ai changé de choix. Ça va être un ensemble d'hommes et de femmes, et vraiment transgénérationnel, à partir de 13 ans jusqu'à 70 ou quelque chose comme ça. Une quinzaine d'élèves qui ont préparé, soit seuls ou en petits groupes, des chansons. Alors, initialement, je cherchais un peu dans les répertoires, je cherchais un peu l'historique dans la chanson pour les femmes. Et j'étais étonnée de voir, évidemment, que les premières chansons du dernier siècle, c'était surtout des chansons écrites par des hommes, mais chantées par des femmes. Et puis, petit à petit, toute des générations qui venaient en écrivant leur propre chanson, comme Barbara, etc. J'ai invité les élèves surtout à trouver ce qu'ils parlaient le plus. toucher des différentes thématiques autour de la femme, la maternité, la vie émotionnelle pour commencer, mais aussi les violences faites aux femmes, l'affirmation de soi, l'égalité homme-femme, etc. Donc il y a peut-être surtout des chansons plus actuelles, parce qu'il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui écrivent vraiment sur leur corps, sur ce qu'ils vivent. Et puis également aussi quelques chansons écrites pour des hommes ou par des hommes, pour donner une parole, puisque c'est évident que cette cause, le sujet égalité homme-femme, ce n'est pas seulement une histoire de femmes.
Ce qui a compté pour vous aussi, c'est de créer un échange autour de l'analyse des textes. Finalement, vous poussez les plus jeunes peut-être à en discuter à la maison?
Absolument. J'étais étonnée de voir que pour certaines chansons qu'elles venaient me proposer, elles ne savaient pas vraiment de quoi ça parlait. Donc j'évoquais d'abord assez gentiment, en invitant à les rentrer à la maison, en parler à la maison et puis revenir qu'on en reparle. Parce que certains sujets, 13, 14, 15 ans, je n'ai pas envie d'être la première à aborder certains sujets. Et du coup, ça donnait vraiment lieu à des échanges très intéressants aussi dans les cours collectifs, où il y a eu du coup les femmes qui, pour être des grands-mères de ces jeunes et aussi des hommes, ça donnait beaucoup d'échanges par rapport à tout ça, la façon dont on dit. Un exemple, par exemple, Barbara qui raconte sa vie intime, mais d'une façon extrêmement poétique. Et puis, si aujourd'hui on regarde une chanteuse comme Mathilde, qui a créé la chanson Le corps de femme, là, il n'y a rien qui est caché, c'est très, très cash, c'est très direct. Donc, c'est très intéressant de voir de quelle façon est-ce qu'on s'exprime, comment est-ce qu'on. Et puis aussi tout l'aspect de corporalité avec ça. Et aussi un travail vocal. Je me suis rendu compte aussi en écoutant toutes ces chansons que les chanteuses d'aujourd'hui sont beaucoup plus dans une recherche d'utiliser à la fois ce qu'on appelle la voix de poitrine, la voix de tête, c'est-à-dire la voix qu'on peut souvent associer à une masculinité et féminité. Elles font vraiment le lien entre les deux voix, tandis que si on retourne un peu dans le temps, c'est beaucoup plus des chansons, soit principalement en voix de tête, ou sinon. Donc il y a tout un travail aussi vocal lié à ces histoires d'hommes-femmes, des qualités, de qu'est-ce qu'on veut exprimer, de quelle façon on veut l'exprimer, comment est-ce qu'on se tient sur scène quand on affirme ses propos ou quand on est plus dans le doute de ce qu'on veut dire, etc. Donc un travail très intéressant, on s'éclate.
C'est un moment attendu dans la semaine, celui de la chronique de Donatien.
Une fois de plus, Donatien est obligé d'ouvrir son dictionnaire à un vieux Robert dont la tranche se détache de plus en plus et nécessiterait un recollage avec du scotch. Donatien contraint donc d'ouvrir son dictionnaire aux pages jaunies pour vérifier l'orthographe du mot « balade ». Jamais il ne se souvient s'il faut deux L à balade ou un seul. Deux L pour le poème ou la chanson, comme la balade irlandaise. Un seul L pour la promenade, la randonnée du dimanche après-midi, la petite balade digestive que l'on fait sur le chemin de halage, le chemin sur lequel on compose ou on chantonne une balade, avec cette fois-ci deux ailes qui font s'envoler les pensées, tout comme la rêverie d'une marche nonchalante. Allez donc vous y retrouver dans tout cela, l'auditeur va m'envoyer balader. Assez littéraire, toujours à jouer avec les mots, les images, toujours à construire des ponts sémantiques, à s'autoriser des licences poétiques. Jamais rien de tangible, de ferme, ni définitif. Oh ! Les mathématiques ne rassuraient pas plus Donatien, toujours incapable, malgré le martèlement du professeur, de noter les coordonnées d'un point en distinguant l'abscisse de l'ordonnée. De même, en géographie, Donatien attrapait la migraine en faisant tourner la map monde, se prouvant à lui-même que la Terre était ronde, mais ignorant au fil des ans la distinction entre les méridiens et les parallèles, d'autant qu'il s'agissait de lignes imaginaires. L'imagination délirante de Donatien se heurtait de la même façon à la confusion entre latitude et longitude. C'est pourtant simple, clament en cœur Joël et les scientifiques, aussi simple que de différencier les lignes verticales des lignes horizontales. Et pour cela, un moyen infaillible au secours des poètes, des fantaisistes et des ignorants, comme les chroniqueurs de votre radio. Ligne horizontale, comme les rayures sur les chaussettes. Et ligne verticale, comme les rayures sur les chemises. Ben voilà. Enfin, avez-vous remarqué, allez savoir pourquoi ne trouve-t-on pas de chaussettes avec des rayures verticales, ni de chemises avec des rayures horizontales. Même sur Internet, j'ai tapé chaussettes à rayures verticales, impossible à trouver. Hormis les chemises et les chaussettes à carreaux, la verticalité pour le haut et l'horizontalité pour les pieds. Le polo lui fait exception, peut-être parce qu'il se porte sur la plage, même à l'horizontale, quand la chemise, comme le méridien du géographe méticuleux et l'ordonnée du mathématicien rigoureux, exige la position debout. Ni choix, ni confusion, donc, dans le domaine vestimentaire, voilà qui rassure Donatien, qui n'a plus qu'à miser toute sa concentration sur un seul effort, ne pas boutonner lundi avec mardi, mais ça c'est simple comme un jeu d'enfant, aussi simple que de distinguer la droite de la gauche, quoique.
Pour faire un bon speaker, il faut savoir speaker. On prend de la valeur à savoir répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit rêche. Si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées. Alors faut répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? Il avait 10 ans, le petit Pierre zozotait. Et tout en zozotant, tout le temps, il chantait. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit reste. Si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées. Ah ben alors, faut répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? Mon voisin le Brugnat aime bien ce refrain-là. Comme il est auvergnat, il le chante comme cela. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit rêche. Si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées. Alors faut répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? Et ce n'est point tant malégé que vous le dites. Balabrègue apprend cette chanson. Seulement comme il est bègue, il chante de cette façon. Les chemises de l'archi.
Quoi, c'est pas la peine de faire le malin. C'est pas si difficile que ça.
Ah ben essaye donc, on verra bien.
Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit rêche. Si vous bamouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées. Alors pour épaisser, les chechesses de l'archidumise. Oh zut, sirmonche.
C'était les chemises de l'archiduchesse de Ray Ventura, l'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Mélanie Planchenot, merci à Virginie et Sandrine, merci à Donatien et merci à toi Maxime. Alors qu'est-ce qui nous attend pour la suite sur l'autre radio?
La soirée commence avec Sorcière à 19h. L'émission vous entraînera dans un voyage mêlant art, protection de nature et militantisme. Laissez-vous emporter par la fascination d'Amandine pour les personnages féminins de David Lynch.
Et ensuite,
la soirée continue comme tous les mardis à 21h avec Frères de Chaussures. Cette émission nous fera rentrer dans le monde du rap français proposé par Fat Chou.
Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec Nathalie Béas, metteuse en scène du spectacle Velvet que vous pourrez découvrir sur la scène du Théâtre des Ursulines à Château-Gontier le 28 février. D'ici là, laissez cette journée vous glisser entre les doigts sans chercher à tout retenir. Parfois, c'est en lâchant prise qu'on attrape le mieux l'instant. Et oui, vous le méritez. Puis s'il vous plaît, Faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin. Ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.